Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, comme chaque jeudi 14h, c'est l'actualité du pape François sur Radio Maria France. Dans cette actualité, nous allons revenir sur les paroles du Saint-Père lors de la prière de l'Angélus, c'était dimanche dernier. Quelques mots également du Saint-Père sur les tensions qui règnent toujours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous parlerons également bien sûr des mots du Saint-Père lors de sa catéchèse, l'audience générale du mercredi, les larmes du Christ. Et enfin quelques mots sur le pacte, le pape qui relance le pacte éducatif mondial. Voilà, amis auditeurs, bienvenue à tous dans cette actualité du pape François. Et nous commençons donc par ces paroles du Saint-Père lors de la prière de l'Angélus. C'était donc dimanche dernier, ce dimanche 11 octobre, le Saint-Père qui est revenu sur la parabole des invités à la noce pour rappeler que Dieu invite tout le monde sans discrimination et sans exclusion, mais que chacun doit se rendre disponible à un chemin de conversion. Oui, par le récit de la parabole du banquet nuptial dans cet évangile, Jésus esquisse le dessein de Dieu pour l'humanité. Voilà ce qu'a expliqué le pape François en développant l'image de cette noce comme une métaphore de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Je cite le Saint-Père, « Par deux fois, le roi envoie ses serviteurs appeler les invités, mais ceux-ci refusent, car ils ont d'autres choses auxquelles penser, les champs et leur commerce. Souvent, nous aussi, nous mettons nos intérêts et les choses matérielles avant le Seigneur qui nous appelle. Et pourtant, le Seigneur persévère dans l'appel. C'est ainsi que Dieu se comporte, nous dit le Saint-Père. Lorsqu'il est rejeté, au lieu de se rendre, il relance et invite tous ceux qui se trouvent à la croisée des chemins, sans exclure personne. Personne n'est exclu de la maison de Dieu, a ajouté le pape François. Alors dans ce récit évangélique, les plus marginaux sont invités à la noce, les bons comme les mauvais. Dieu n'a pas peur de l'âme blessée de toutes les personnes méchantes, a expliqué le pape François. De la même façon, aujourd'hui, je le cite, « L'Église est appelée à atteindre les carrefours d'aujourd'hui, c'est-à-dire les périphéries géographiques et existentielles de l'humanité, ces lieux en marge, ces situations dans lesquelles les gens se retrouvent coincés et vivent des lambeaux d'humanité sans espoir. Il faut donc, nous dit le Saint-Père, ouvrir les portes de nos cœurs et de nos communautés à tous, en invitant à ne pas se contenter des méthodes d'évangélisation habituelles. Je cite le pape François, « Même les marginaux, même ceux qui sont rejetés et méprisés par la société, sont considérés par Dieu comme dignes de son amour. Il prépare son banquet pour tous, les justes et les pécheurs, les bons et les mauvais, les intelligents et les incultes. » Le pape a alors raconté, en sortant de son texte, qu'il avait appelé, le samedi, c'était la veille, un vieux prêtre italien qui a brûlé sa vie pour les pauvres en étant missionnaire au Brésil, en cohérence avec ce message de Dieu. Alors pour revêtir l'habit de miséricorde que Dieu nous offre sans cesse, il faut se rendre disponible à un chemin de conversion et recevoir le don gratuit de la grâce. Je cite le pape François, que Marie, très sainte, nous aide à imiter la parabole des serviteurs de l'Évangile en sortant de nos schémas et de nos vues étroites, en annonçant à tous que le Seigneur nous invite à son banquet pour nous offrir la grâce salvatrice. Au terme de cette prière de l'Angélus, alors outre son appel pour la paix au Haut-Karabakh et sa préoccupation pour les incendies en Amérique, le pape s'est exprimé aussi au sujet de la béatification samedi à Assise de Carlos Acutis, jeune Italien décédé en 2006. Il a rendu hommage à ce garçon de 15 ans, amoureux de l'Eucharistie, qui a saisi les besoins de son temps, car dans les plus faibles, il a vu le visage du Christ. Le témoignage de Carlo Acutis, que le pape a présenté comme le nouveau jeune millénial béni, est donc un exemple pour tous les jeunes auxquels il a indiqué que le vrai bonheur se trouve en mettant Dieu à la première place et en le servant dans les frères et sœurs, surtout les derniers. Et dans cette actualité, le pape François qui encourage les efforts diplomatiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, l'annonce d'un cessez-le-feu, qui était censé donc entrer en vigueur samedi 10 octobre, n'a pas mis un terme réel au combat dans le Haut-Karabakh, où la guerre fait rage depuis 2 semaines. Lors de cet Angélus, dimanche dernier, le pape François a néanmoins appelé à persévérer dans les efforts visant à trouver une solution diplomatique pour mettre fin au conflit. Je cite le pape François, « J'ai apprécié qu'un cessez-le-feu ait été conclu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en vue d'atteindre un accord de paix substantiel. Bien que la trêve se démontre trop fragile, j'encourage à la reprendre et j'exprime une participation à la douleur pour la perte de vies humaines, pour les souffrances subies, et pour la destruction d'habitations et de lieux de culte. Je prie et j'invite à prier pour les victimes et pour tous ceux dont la vie est en danger. » Je rappelle que le pape François avait visité ces deux pays, c'était en 2016. Oui, plusieurs centaines de personnes qui ont péri dans les affrontements, qui ont repris donc depuis 2 semaines dans cette région de population arménienne, mais rattachée administrativement à l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique. Une guerre avait d'ailleurs opposé les deux républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan de 1988 à 1994, les deux parties ayant entre-temps proclamé leur indépendance en 1991, tout comme le Haut-Karabakh, soutenu par l'Arménie, mais qui n'a été formellement reconnu par aucun pays. Alors après un bilan global estimé à 30 000 morts, le cessez-le-feu signé en 1994 sous l'égide du groupe de Minsk, co-présidé par la France, les États-Unis et la Russie, avait mené à un gel de la ligne de front, mais sans véritable paix. Alors la dernière offensive de l'Azerbaïdjan, qui avait été lancée le 27 septembre dernier, qui avait visé notamment la principale ville, Stepanakert, avait ouvert un nouveau cycle de violence de grande ampleur. Alors bien que l'état de guerre ait toujours persisté avec de réguliers incidents, il s'agit des affrontements les plus graves depuis 1994. La moitié des 150 000 habitants de la région auraient pris le chemin de l'exode vers la République d'Arménie. Ces derniers jours ont été notamment marqués par de nouvelles frappes de l'Azerbaïdjan sur Stepanakert, mais aussi, le 8 octobre, par le bombardement de la cathédrale de Chouchi, qui a suscité une vive émotion dans la population arménienne. Alors une rencontre directe avait pu se tenir le vendredi 9 octobre dernier à Moscou, entre les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan, sous l'égide de leur homologue russe Sergueï Lavrov. La mise en place d'un cessez-le-feu avait pour but, bien sûr, de permettre l'évacuation des corps sur la ligne de front, notamment, et avait été présentée comme un premier pas vers la reprise de négociations substantielles sur le statut de la région. Un million d'enfants prient le rosaire. Le pape François a encouragé cette initiative de la Fondation pontificale L'aide à l'Église en détresse, organisée donc dimanche 18 octobre 2020. Le pape avait évoqué la prière des enfants, c'était après l'Angélus, donc de dimanche dernier, place Saint-Pierre, en disant « Dimanche prochain, 18 octobre, la Fondation Aide à l'Église en détresse promeut l'initiative pour l'unité et la paix. Un million d'enfants récitent le rosaire. J'encourage ce bel événement qui implique des enfants du monde entier, qui prieront particulièrement pour les situations critiques causées par la pandémie. » Donc partout dans le monde, les enfants vont prier le chapelet donc ce 18 octobre. Nous invitons les familles, les catéchistes, les enseignants à prier le chapelet avec eux pour l'union et la paix dans le monde, a indiqué l'AED France. Le pape François souhaite que soit fait un pas de plus dans le rôle des laïcs au sein de l'Église. Il a signé, le Saint-Père, la préface d'un ouvrage du sous-secrétaire du Synode des évêques, Mgr Fabio Fabene, et il appelle de ses vœux une Église où le rôle de la femme est central. Le titre en français de ce livre est « Symphonie de ministère des laïcs dans l'Église ». Alors par les laïcs, Il faut que l'Église soit présente là où l'homme vit et souffre pour faire resplendir de partout la lumière de l'Évangile. Voilà ce qu'on peut lire dans le texte publié par l'Osservatore Romano, daté du 14 octobre. Le pape y invite à faire confiance à l'imagination créatrice de l'Esprit-Saint. Le pape François qui fustige une nouvelle fois le cléricalisme, toujours nuisible pour l'Église. Il faut, écrit-il, que la vocation spécifique des laïcs soit reconnue à tous les niveaux, en évitant par tous les moyens de les cléricaliser. Le centre de la mission laïque, a affirmé le Saint-Père, consiste à consacrer le monde selon le projet de Dieu, et les laïcs sont appelés à être heureux dans le don d'eux-mêmes et dans la prière. Nous en venons maintenant à l'audience générale du Saint-Père, le pape François, qui poursuit sa catéchèse sur la prière. C'était donc au cours de cette audience générale de ce mercredi 14 octobre, dans la salle Paul VI du Vatican. Et il a consacré son enseignement de ce jour au livre des psaumes. Le psalmiste, a-t-il dit, ne conteste pas radicalement la souffrance, parce qu'il sait qu'elle fait partie de la vie. Alors voici quelques extraits, quelques mots donc de cette catéchèse du Saint-Père qui rappelle que quand nous lisons la Bible, nous nous confrontons continuellement à différentes sortes de prières. Mais nous trouvons également un livre composé uniquement de prières, un livre qui est devenu une patrie, un terrain d'exercice et la maison d'innombrables priants. Il s'agit du livre des psaumes. Il y a 150 psaumes pour prier. Ce livre des psaumes fait partie des livres sapientiaux parce qu'il communique un savoir prier à travers l'expérience du dialogue avec Dieu. Oui, dans les psaumes, nous trouvons tous les sentiments humains, les joies, les douleurs, les doutes, les espoirs et les amertumes qui colorent notre vie. Le catéchisme affirme que chaque psaume est d'une sobriété telle qu'il peut être prié en vérité par les hommes de toutes conditions et de tous les temps. En lisant et en relisant les psaumes, nous apprenons le langage de la prière. En effet, Dieu le Père les a inspirés par son esprit dans le cœur du roi David et d'autres priants pour enseigner à tous les hommes et toutes les femmes comment le louer, le remercier et le supplier, l'invoquer dans la joie et dans la douleur, raconter les merveilles de ses œuvres et de sa loi. En résumé, les psaumes sont la parole de Dieu que nous, les êtres humains, nous employons pour parler avec lui. Alors pour les prier, il suffit d'être ce que nous sommes. Il ne faut pas oublier que pour bien prier, nous devons prier tel que nous sommes, sans maquillage. Il n'est pas nécessaire de se maquiller l'âme pour prier. Seigneur, je suis comme cela. Et nous présenter au Seigneur tel que nous sommes, avec ce qui est beau et aussi ce qui n'est pas beau, que personne ne connaît mais que nous connaissons au fond de nous-mêmes. Oui, dans les psaumes, nous entendons la voix de priants en chair et en os, dont la vie, comme celle de tout le monde, est semée de problèmes, de fatigues, d'incertitudes. Le psalmiste ne conteste pas radicalement cette souffrance, il sait qu'elle fait partie de la vie. Mais dans les psaumes, la souffrance se transforme en question, de la souffrance à l'interrogation. Et parmi toutes ces questions, il y en a une qui reste en suspens, comme un cri incessant qui traverse tout le livre de part en part. Une question que nous répétons très souvent. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Toute douleur réclame une libération. Toute larme invoque une consolation. Toute blessure attend une guérison. Toute calomnie, une sentence d'absolution. Jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je supporter cela? Écoute-moi, Seigneur. Combien de fois nous avons prié ainsi, avec ce « jusqu'à quand ?» Cela suffit, Seigneur. Alors, posant continuellement ce genre de questions, les psaumes nous apprennent à ne pas nous habituer à la souffrance et ils nous rappellent que la vie n'est pas sauvée si elle n'est pas guérie. L'existence de l'homme est un souffle, son histoire est fugace, mais le priant sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi crier a un sens. Et c'est important, nous dit le pape François. Quand nous prions, nous le faisons parce que nous savons que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est la grâce de l'Esprit-Saint qui éveille au fond de nous cette conscience, celle d'être précieux aux yeux de Dieu. Le priant des psaumes demande à Dieu d'intervenir là où tous les efforts humains sont vains. Voilà pourquoi la prière est déjà en soi un chemin de salut et un début de salut. Tout le monde souffre en ce monde, que l'on croit en Dieu ou qu'on le repousse. Mais dans le psaume, la souffrance devient relation, rapport, un appel à l'aide qui attend de toucher une oreille attentive. Réfléchissez à cela, nous dit le pape François. Les larmes ne sont pas universelles, ce sont mes larmes. Chacun a les siennes. Mes larmes et ma souffrance me poussent à continuer de prier. Ce sont mes larmes que personne n'a jamais versées avant moi. Oui, pour Dieu, ajoute le Saint-Père, toutes les souffrances des hommes sont sacrées. Devant Dieu, nous ne sommes pas des inconnus ni des numéros. Nous sommes des visages et des cœurs, connus personnellement par notre nom. Dans les psaumes, le croyant trouve une réponse. Il sait que même si toutes les portes humaines étaient verrouillées, la porte de Dieu est ouverte. Même si le monde entier avait prononcé une sentence de condamnation, le salut est en Dieu. Nos cris, enfin, termine, conclut le Saint-Père, nos cris ne restent pas ici-bas, ils montent jusqu'à lui qui a un cœur de père et qui pleure aussi pour chaque fils et chaque fille qui souffre et qui meurt. Voilà cette très très belle catéchèse sur la prière et notamment sur ce livre des psaumes. Et nous allons maintenant parler de ce dernier titre sur le pacte éducatif mondial qui est relancé par le pape François. La rencontre promue par le Saint-Père pour que le monde s'engage pour et avec les jeunes se tient donc en modalité virtuelle aujourd'hui même. Oui, le pape qui sera le premier à s'exprimer par message vidéo des jeunes, mais aussi des personnalités religieuses et du monde de la culture y réagiront. Oui, le pape François qui revient donc au thème de l'éducation, centrale depuis le début de son pontificat, car éduquer est un acte d'espérance, a plusieurs fois répété le pape François. Alors le souverain pontife introduira la rencontre virtuelle, donc prévue aujourd'hui, par un discours enregistré par message vidéo, diffusé aujourd'hui à 14h30 sur le site internet de Vatican News, ou sur la chaîne YouTube de Vatican News, avec une traduction simultanée. Au terme de son intervention, le pape proposera à toutes les personnes de bonne volonté d'adhérer au pacte éducatif mondial qui vise à générer un changement au niveau mondial pour que l'éducation soit créatrice de fraternité, de justice et de paix. Ce message sera commenté à distance par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, mais aussi par les responsables de la Congrégation pour l'éducation catholique qui a organisé la rencontre, dédiée spécifiquement au monde académique. Le cardinal Giuseppe Versaldi et Mgr Angelo Vincenzo Zani s'exprimeront depuis l'Université pontificale du Latran à Rome, aux côtés de deux recteurs, celui du Latran et celui de l'Université catholique du Sacré-Cœur. Alors, premier destinataire de ce message du pape François, ce sont les jeunes, plusieurs jeunes étudiants qui réagiront. Et dans le monde, 216 000 écoles catholiques, fréquentées par plus de 60 millions d'élèves, ainsi que 1750 universités catholiques, rassemblant plus de 11 millions d'étudiants qui se réfèrent à la Congrégation pour l'éducation catholique. Alors comme le prouve d'ailleurs l'intervention de la directrice de l'UNESCO, le pacte éducatif mondial ne se limite pas aux institutions éducatives et académiques. Dans la conviction que l'engagement éducatif doit être partagé par tous, il implique les représentants des religions, des organismes internationaux et des différentes institutions humanitaires du monde académique, économique, politique et culturel. Le 9 janvier dernier, le pape avait d'ailleurs invité les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège à prendre part à l'initiative. Nous devons unir nos efforts pour faire naître une alliance éducative, avait affirmé le pape François le 12 septembre 2019. Et dans son message publié à l'occasion du lancement du pacte éducatif, il avait déclaré, je le cite, « Essayons ensemble de trouver des solutions d'initier des processus de transformation sans peur et d'envisager l'avenir avec espoir. J'invite chacun à être un protagoniste de cette alliance en prenant un engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire répondant aux attentes de l'homme et aux desseins de Dieu. Alors plusieurs événements complémentaires étaient prévus donc pour lancer ce pacte éducatif mondial en mai dernier. Ils avaient été annulés bien sûr en raison de la pandémie, mais ces rendez-vous restent au programme, comme notamment le Village pour l'éducation. Alors j'ajoute également que ce pacte éducatif, initié par le Saint-Père, n'a pas toujours fait l'unanimité, ne fait pas toujours l'unanimité au sein de l'Église catholique. Un certain catholique lui reproche une vision entièrement terrestre, sans référence à la vie du monde à venir. Alors selon les détracteurs de l'esprit dans lequel est promu ce pacte éducatif, celui-ci ferait la promotion d'un nouvel humanisme mondialisé, baignant dans un relativisme culturel et religieux qui ne mentionne pratiquement jamais Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voilà, amis auditeurs, ainsi s'achève cette actualité du pape François. Voilà, je vous retrouve dans 2 semaines, donc jeudi dans 2 semaines, toujours à 14h. Au revoir à tous.